Peut-être juste pour conclure les trucs d'édition, vous avez entendu plusieurs fois le nom Art Kill Art, c'est un label donc, qui avait été monté par deux personnes en 2005. Et en fait, on avait participé à la première édition du label avec un disque qui s'appelle Radio Free Robots. C'est ça. On était encore à moitié à l'école on avait monté un petit collectif où on n'utilisait que des voix de synthèse. C'était un peu le début de la technologie qui s'améliorait. Et c'était surtout dans les premiers temps où on les commençait à les trouver dans les ascenseurs, dans les répondeurs téléphoniques, dans certaines voies pour les passages piétons, des fermetures de portes, tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un truc quasiment naturel. Il y a même des robots avec reconnaissance de voix qui peuvent dialoguer par téléphone. Ils sont comme des œillères, ils ne peuvent pas discuter d'autre chose que du sujet ou de la publicité qu'ils sont en train de faire. Enfin, c'est devenu assez naturel et ça va l'être de plus en plus. À l'époque, c'était assez peu courant, sauf peut-être le disque que tu avais sorti, Jérôme, qui avait été un peu en référence à Agile. Qui faisait partie un peu de nos références aussi à l'époque sur RFR. En fait, on avait monté, à l'époque, on avait eu un créneau sur Radio Libertaire à Paris où on faisait des petites séquences d'intervention de robots qui discutaient entre eux, de problèmes de robots et de savoir comment se détacher de la condition dans laquelle ils étaient et dans laquelle l'humain les gardait. Donc c'était une espèce de propagande robotique pour la libération du logiciel ou des systèmes robotisés comme ça. C'était surtout une grande partie de plaisir, au-delà du concept et tout. Je sais pas, je peux vous faire écouter très rapidement. Donc en gros, on utilisait tout plein de logiciels de programmation de voix de synthèse qu'on modifiait dans le code ou ça dépendait des accès qui étaient possibles. Donc le vinyle, lui, il est plus musical. Les émissions de radio, vous avez tout accessible sur radiofreerobots.com. Dans Broadcast, vous avez toutes les archives d'émissions de radio qu'on a fait. Tout est accessible. Et avec des thématiques à chaque fois, on choisissait une thématique les mouvements mécaniques, les spams, le clic. Le droit et le devoir des robots, les problématiques en relation avec l'humanité, les systèmes d'exploitation, etc. C'est des capsules, on avait appelé ça des capsules, c'est des trucs qui avaient été ensuite repris sur Radio Panique pendant un an. Ils diffusaient ça une fois par semaine, je crois. Ils allaient piocher dedans pour les rediffuser.
I don't care. All right.
etc. C'est un aperçu très très rapide. Donc ça c'était la première sortie sur le label Art Kill Art et ça a fait que moi je suis resté très proche pendant quelques temps jusqu'à complètement m'investir dedans par la suite. Donc c'est vraiment La plupart des éditions, c'est des travaux d'artistes qui ont du mal à se situer au niveau de la musique et qui sont entre l'art sonore et l'installation brute aussi, ou juste du pur concept, comme Wolf Up and Down, c'est 10 000 morceaux de musique compressés les uns par-dessus les autres. Donc c'est un bruit extrêmement violent comme ça. Donc, là où on réfléchit ensemble, c'est sur tout ce qui est graphique et les types de papier, les manières de présenter les artistes, etc. Donc ça donne souvent naissance à des objets assez beaux. Mais je suis pas très objectif. Michael Selam, c'était une installation, c'était Scratch, et c'était celui-ci, là. Il avait fait défoncer en fait un disque de Christian Marclay par un des robots les plus rapides de l'époque, qui arrivait autour de 300 mouvements par seconde, comme ça. C'est des robots de manipulation dans l'industrie. C'est fait pour trier les saucisses ou pour n'importe quelle manipulation qui a besoin d'être faite rapide et précise. Le résultat sonore, il est assez brutal aussi. Et en fait, il avait le type de partition qu'il faisait jouer, c'était des partitions graphiques qui correspondent au mouvement sur le disque. Donc c'est que des allers-retours de la pointe. Le robot est équipé d'une pointe et il défonce le disque au fur et à mesure.
Et ce qu'on entend, c'est le bruit du robot enregistré ou c'est la
C'est les
du
deux.
Disque et
le... Les deux réunis. C'est à la fois le bruit du robot et le résultat. Donc c'est se rapproche vraiment de la noise, mais c'était avant tout une installation avant de devenir un objet sonore. Ensuite, on a eu un projet assez récent, une cassette qui est sortie, c'est de Jean-François Blanquet. Alors, le principe de cette cassette, c'est que lui, il a bossé sur les data cassettes, qui étaient les vieux programmes informatiques. Pour les Amstrad ou pour d'autres systèmes informatiques, on faisait lire le programme par la cassette. Et en fait, le programme, il est encrypté de manière sonore dedans. Donc, c'est suivant les types de fréquences, ça va activer telle ou telle. Enfin, ça se met en mémoire cache et puis ça active telle ou telle ligne de script. Donc, lui, il est reparti de cette technologie-là. Il a fait un peu le procédé inverse, c'est qu'il a. Il a pris le procédé inverse, c'est-à-dire qu'il a en fait encrypté tout un texte de manière comme les anciennes cassettes data. Si on le met en écoute en parallèle avec un site internet, on a le texte qui réapparaît sur la page du site, simplement à l'écoute de la cassette. Il a fait un truc un peu fictionnel où le contenu du texte, c'est en fait, il se situe dans un truc un peu de science-fiction où il y aurait quelqu'un du futur qui est resté enfermé dans un programme informatique et le seul moyen qu'il a trouvé pour communiquer et appeler au secours, c'est par cette technologie-là. Donc c'est un type qui appelle au secours depuis la cassette, mais de manière textuelle. Donc le son est extrêmement brut.
This is the logging of a clandestine IRC channel due to a process of protection of copies at work from time to time. Some parts will stay obscure. The personal group that initiated this leak found it essential to bring out to the knowledge of certain people the content of these debates, instructions,
with an audio cable, link the cassette player to a computer. After this message, stop the play of the cassette at the second beep. Open the log4data.net web page. Authorize the take of control of the audio input and relaunch play on the cassette. Watch out.
Donc le son de la cassette, c'est ça. C'est ce qui va venir. Le texte que vous voyez défiler en dessous, c'est le décryptage du son qu'on est en train d'entendre en fait. Vous remarquerez, c'est assez lié aussi avec des réflexions que j'ai dans mon boulot, c'est que c'est vraiment trouver les espèces d'interférences qu'il peut y avoir entre la technologie, le contenu, le contenant, l'objet lui-même, son utilisation. Enfin, c'est vraiment en permanence en aller-retour à travers ces différents paramètres. Dans des choses. Donc le drift, il était sorti sur ArcLeart aussi. Mario de Vega, je vous recommande grandement aussi d'aller voir son travail et je vous donnerai aussi des références parce qu'il met beaucoup de choses en libre accès pour ce qui est du fabrication de capteurs magnétiques, de sniffers wifi, de petits émetteurs radio qu'on branche en USB, des choses comme ça. Je vous enverrai ça. Et donc Mario, il avait fait une série de live avec des micro-ondes où en fait il balançait différents objets dans le micro-ondes et il travaillait uniquement à partir de la matière sonore qui est générée par l'attaque par les ondes des objets qui sont situés dans le four. Donc c'est très brut aussi au niveau du son. C'est ce genre de... radioactif comme ça. C'est du gros lourd bien. Donc c'est deux lives, les deux faces, c'est un live à Berlin et un live à Moscou. Et ce qu'on a essayé de produire en participation avec Mario, il avait fait des séries de Chromolux, qui sont ces papiers aluminium et passés au micro-ondes. Et en fait, c'est le marbrage, il est dû par l'attaque micro-ondes de la surface. Donc on a décidé de faire la pochette comme ça, ce qui a donné lieu à une petite cérémonie assez marrante, qui, quand il a fallu micro-onder les 300 pochettes, ça c'est la technique. Ouais, il faut une bobine de cuivre pour faire le contact électrique. Voilà, j'ai pas encore perdu mes cheveux après avoir fait ça. Mais...
Comment va lui pour
vous ? Lui, ça va. Ouais. Il a survécu. Donc voilà, c'est aussi toujours avoir une cohérence entre l'objet final et le contenu qui est à l'intérieur.
Ouais. En gros,
pour ce qui est d'Art Star, il y aura des prochaines sorties qui vont arriver. Il y aura le Drift 2, il y aura. Ah oui, alors aussi en explorant les formats aussi, on a sorti c'est Nicolas Montgermont et. Merci. C'est une clé USB en fait. Donc c'est un espèce de format. La clé fait pas la taille de la pochette. Mais le format en lui-même, c'est seulement ça. Et en fait, donc c'est pas juste une anecdote, hein, parce que c'est pas du son qui est dedans. C'est qu'en fait, la clé, elle possède tout le programme que eux utilisent dans leur live. Et plus que ça, c'est qu'elle elle a eu une espèce de remote control, de prise de contrôle sur l'ordinateur dans lequel elle est branchée. Et qui permet en fait de faire jouer ce programme à distance. C'est-à-dire que quand eux ils font un live, si vous avez la clé qui est branchée dessus, vous avez une connexion internet, ce qu'ils sont en train de jouer en live prend le contrôle de votre ordinateur et le fait jouer sur votre ordinateur. Donc vous ne recevez pas le son du live, vous recevez simplement les données qui prennent le contrôle sur Pure Data. Donc c'était assez révolutionnaire quand même comme méthode de... Donc c'est du streaming de données, c'est pas du streaming de contenu audio, c'est la génération de son, elle est... enfin, le patch, il est dans la clé et le contrôle, il est à distance. Il y a tout un texte aussi de... Je ne sais plus qui a rédigé... un texte un peu théorique justement sur ce système. Et plutôt que faire une erreur, Atao Tanaka qui a bien voulu rédiger un texte pour cet objet. Voilà, en gros, comme j'ai pas terminé les trucs d'édition, ça s'est fait avec Artkiller. Il y aura d'autres choses à venir. Alors, je vais revenir. Je vais vous montrer quelques autres travaux. J'avais participé à une édition pour un bouquin. Brad Donnet, qui est un street artiste, il a eu une proposition de One Star Press, qui est une maison d'édition. Il avait carte blanche et puis lui il a proposé en fait à tout son réseau de connaissances de faire un portrait de lui. Et si l'image veut bien charger. Ah, voilà. Et Brad, c'est un graffeur, enfin, il a fait beaucoup de graffiti, et puis il écrivait partout où il passe, il mettait Brad was here. Brad est passé par là. Et moi, je lui ai proposé en fait de faire une marche, d'enregistrer sa marche, et qu'en permanence, il dise je suis ici, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Donc conceptuellement, ça marche très bien, parce que la prise de son, elle correspond effectivement au moment où il est en train de dire qu'il est là. Mais on ne fait que garder la trace. Et ça, je l'ai enregistré sur cassette. Et ensuite, j'ai découpé chaque phrase où il dit « je suis ici » et qui est replacée juste sur une bande comme ça. Ça donne ça fait, je ne sais plus, 2,80 m de long. Sur 500 petites bandes de cassette. En travaux plastiques comme ça, j'ai fait une espèce de boîte pour transporter du silence d'un endroit à un autre. Donc c'est sous la méthode des pièces anéchoïques, avec c'est que de l'isolant acoustique. Alors ça reste théorique parce que j'ai fait des enregistrements dedans et on doit être à moins 50, moins 60 dB, mais il y a quand même un peu de son qui passe dedans. Mais en fait, c'était un projet plus global un truc qui s'appelait le Mobile Institute où ils avaient proposé des capsules à ma... Non, s'ils n'ont plus. Ah, ils sont passés en point U. Non, c'est pas ça. Bon, le site est peut-être mort parce que c'est un peu vieux. Mais ils avaient, en fait, ils avaient proposé à plein d'artistes d'utiliser cette capsule, donc ça c'était la réponse correspondante. Ça c'est pas forcément intéressant. Ça c'est une vidéo, mais je vais plutôt vous montrer dans ce cas. Donc c'était la résidence aux instants Chaviré. J'avais été en résidence combien? 6 mois, 7 mois, quelque chose comme ça, mais j'y allais de temps en temps. Et puis ça s'est conclu dans une expo où toutes les pièces avaient été montrées. Dans l'entrée des instants, il y a une plaque d'égout comme ça, donc c'est la première vidéo que vous aviez en entrant. Je l'avais motorisée en dessous avec une batterie, donc elle était en rotation permanente sur le mois d'exposition, avec ce petit grincement particulier. J'avais fait une espèce de vinyle format XXL simplement avec un câble enroulé qui donne graphiquement ça fonctionne plutôt bien. Il y avait ce tas de haut-parleurs, juste un jeu très formel comme ça où on pouvait quand même écouter du son et il diffusait le moment où il a été fait. Il y avait le bruit du moment où je l'ai construit, un truc un peu à la Sisyphe où en permanence en jetant les haut-parleurs qui s'écroulent et qui se remettent et qui s'écroulent. Et donc on pouvait avoir le sentiment qu'il y avait des bouts qui tombaient, mais c'était uniquement le son et il était complètement statique. Mais on pouvait croire qu'il y avait des bouts de l'intérieur qui tombaient. Il y avait la présentation de ce disque qui avait été fait de manière un peu brute. C'est une proposition de pour percer. Il y avait stéréo tout mono, c'est j'ai fait la prise de son de ce haut-parleur qui a brûlé exactement à cet endroit là et lui le continue de le diffuser, en fait il diffuse le son de lui qui a disparu. Sonic Weapon, c'était la version installation d'une vidéo que je vais vous montrer après, parce que c'était l'année où il y a eu le livre de Juliette Volclair qui s'appelle Le son comme arme, qui était sorti, qui explorait tous les usages militaires du son. Et en fait, alors c'est une pièce en collaboration avec Pierre-Étienne Morel. Et puis Jérôme Finot qui a filmé la performance, mais en gros c'était une proposition d'une arme d'autodéfense fait maison comme ça, donc c'était une catapulte à haut-parleur au cas où si on se fait attaquer par du son, il faut savoir répondre. Et ça s'était présenté, il y avait la vidéo qui répondait et qui est... non. Galérer un peu. Ouais, mais je vous montre le... Ah merde, mais du coup, il n'y a pas le plein écran. D'abord la mise en place du dispositif qui a permis la captation de la vidéo. Ça c'est le making of. Donc on a construit une vraie catapulte avec il y avait environ 450 kg de poussée. un gros bruit blanc qui est diffusé dans le parleur parce qu'il était branché sur un ampli. Je pense qu'on a battu le record du monde, on a tiré à 37 mètres. Vous allez le voir à la fin, mais c'était de. On voit pas la catapulte, c'est vraiment un cadre hyper minimal avec le ciel et le sol. Et simplement, je voulais avoir le haut-parleur qui passe de manière complètement surréaliste, comme ça, qui traverse le ciel. C'est le plan final, mais ça c'est les mauvais tirs. Et le bon, il est. Voilà, donc ça c'est le plan qui était dans l'installation qu'on va retrouver derrière. Voilà, c'était, j'aurais pu le faire sur After Effects, mais c'était quand même beaucoup plus drôle de tout mettre en place. Et en fait, voilà, donc c'était présenté comme ça, dans une salle où la trace vidéo, c'est parce que c'était une pause longue. Et c'était le haut-parleur qui avait subi le tir, qui diffusait son propre son, comme ça. Donc elle était en boucle et ça, il y avait, le tir avait lieu, je sais pas, tous les 3 minutes à peu près. Ce qui appelait, parce que le son appelait à tourner la tête, mais généralement le haut-parleur était déjà passé. Là, une install bien brute dans une expo qui avait lieu à Bruxelles dans une ancienne usine abandonnée. C'était une pièce de noise pure. C'était juste un. Une meuleuse suramplifiée. C'est un petit salon d'écoute un peu brutal comme ça. Suite de quoi j'ai continué d'utiliser des meuleuses pour. Il y a une série de performances que j'avais fait, c'était vraiment le très simple, c'est un micro à plein volume sur la sono, donc qui est en plein feedback, et puis c'est de l'user jusqu'à ce que le signal disparaisse, et donc que ça termine dans un silence un peu abrupt comme ça. Ça a donné lieu du coup à des petits jeux un peu formels. Une sorte de petite sculpture. Je m'étais permis d'acheter une collection de meuleuses pour les faire s'entre-manger entre elles. Et alors, étonnamment, c'était marrant parce que c'est une pièce qui est assez violente et en fait, elle est, malgré qu'elle soit en silence, il n'y avait pas de son qui était diffusé. Bizarrement, dans les retours et en discutant, c'est une pièce qui est hyper bruyante en fait parce qu'on imagine parfaitement le moment où elle a été faite. Et elle a beau générer aucun son, elle possède toute la violence du son qu'elle a subi. Voilà, il y avait aussi une petite installation, mais c'est des casques qui sont branchés sur une multiprise, qui est branché au mur, mais en fait c'est truqué parce que j'ai détourné le circuit électrique et c'est branché sur un ampli audio. Donc on peut très bien faire circuler du son dans une maison si on débranche le général électrique et qu'on le met sur un ampli. On se retrouve avec le son dans toutes les prises. Mais tout le monde n'osait pas mettre la tête entre entre les deux oreilles. Pourrais aller fouiller si vous voulez. Je fais quoi? Pendant une résidence en Islande, j'ai fait des sortes de sculptures. C'est des tout petits cailloux que j'ai sculptés à la main au cutter avec les symboles informatiques qui correspondent à nos usages actuels. Et c'était dans l'idée un peu de justement du bah, des supports de mémoire, de ce truc un peu, on parle beaucoup de, on commence à parler pas mal d'archéologie des médias et tout ça, et j'aimais bien faire cette espèce de rencontre entre deux, le monde complètement archaïque de l'âge de pierre avec les outils informatiques d'aujourd'hui. Ça, c'est une petite série qui est souvent exposée en fait en ce moment. Et ça répondait un peu à cette sorte de performance ou d'action, enfin, je sais pas trop comment appeler ça. En fait, donc j'étais en Islande et je devais faire un aller-retour à Bruxelles et je me suis dit que j'allais utiliser. C'était absurde de faire un aller-retour pour juste quelques jours et je me suis dit, bon, bah, alors, quitte à devoir rentrer, autant utiliser ce voyage. En fait, en Islande, il y a tout plein de croyances sur des lieux, sur des cailloux, au niveau géographique. Il y a vraiment des croyances fortes de magnétisme, même des trucs complètement délirants de lutins, ou de trucs un peu bizarres comme ça. Et moi, je me posais la question un peu sur tout ce qui était justement les supports de mémoire et d'enregistrement et de stockage. On cherche toujours à ce que le support sur lequel on stocke, il soit le plus pérenne, qu'il puisse durer le plus longtemps et qu'on puisse le transmettre le plus loin possible. Et quand on reprend un peu dans l'histoire avant qu'on fixe les choses sur support, et on peut remonter loin, hein, aux tablettes sur pierre gravées par les Romains, aux parchemins, etc. Avant qu'on fixe les choses, il y avait l'outil primordial pour transmettre la mémoire, c'est la transmission orale en fait. Et c'est étonnant parce que ce qu'on transmet de manière orale à travers les générations, forcément va se modifier et forcément va correspondre avec l'époque, alors que ce soit au niveau du vocabulaire, mais aussi au niveau des images qui sont générées dans les transmissions orales. Elles doivent correspondre à l'époque dans laquelle elles sont transmises, parce que sinon on perdrait le fil. Et je me posais vraiment cette question-là, si est-ce que moi j'allais produire un espèce d'acte absurde de faire voyager un caillou et de raconter cette histoire-là, est-ce que le caillou posséderait la mémoire de son voyage en fait? Alors, d'une part, on pourrait dire physiquement oui, parce qu'il a pris l'avion, il a changé un peu au niveau moléculaire et il est revenu à sa place, donc on doit pouvoir retrouver des traces de ce voyage, mais ça existe surtout parce qu'il a raconté en fait. Et du coup, il devient un support de stockage par rapport à l'histoire qu'on en raconte. Et c'était ça qui m'intéressait dedans. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un caillou quelconque, assez beau quand même, lors d'une marche. Je l'ai emmené avec moi à Bruxelles. Je l'ai enfermé dans un coffre-fort qui est proche d'un endroit où on faisait des lieux de concert. Et la semaine d'après, je l'ai ramené et je l'ai reposé exactement au même endroit. En documentant juste quelques photos. Alors ça a donné lieu à des trucs marrants parce qu'on n'a pas le droit d'emmener des cailloux d'Islande, donc j'ai dû avoir l'autorisation de la douane. Donc je suis allé voir avec mon caillou en lui racontant le truc et le mec était tout à fait ouvert, tout à fait compréhensible et m'a fait un papier d'autorisation de sortie du territoire pour ce caillou et qui a repris sa place exactement au même endroit une semaine après. Donc ça, c'était lié avec la série des petites sculptures comme ça. Donc c'est pas des travaux sonores, mais c'est hyper lié avec les notions d'enregistrement, de stockage, de fixation de mémoire. Une pièce qui est complètement différente, qui revient un peu sur le vinyle. Je vous la joue comme ça. Est-ce que ça marche? juste inverser le principe de la platine, et plutôt que ce soit le disque qui tourne, c'était de faire tourner la platine autour du disque. C'est magique, hein. C'est un truc, on se demande vraiment ce qui se passe, parce que du coup ça, le disque ne bouge pas du tout, mais il reste scratchable, quoi. On peut le toucher. Si vous voulez connaître la méthode, qui est hyper simple. C'est qu'en fait on met deux platines l'une sur l'autre et qu'il y en a celle du dessous et en reverse et celle du dessus en normal. Et donc vu que ce plateau fait tourner en sens inverse la platine, ça immobilise le disque complètement. Mais il reste manipulable, quoi. On peut le...
Ouais, mais du coup le bras bouge pas du tout, quoi. Il reste toujours sur le même sillon.
Alors c'est un... j'avais fait faire le 10, c'est un sillon bouclé. C'est un 1000 Hz sur une boucle.
Oui, sinon ça s'arrête.
Sinon, ça...
Il devrait s'arrêter au bout d'un moment. Ouais. Bon, ça c'est des petits jeux formels, mais c'est toujours chouette de découvrir ça. Il y avait quoi, en pièce un peu absurde comme ça, il y a ça. C'est juste une perceuse toute seule prise dans un petit mantra de bricolage. Il y a eu ça comme performance. C'était une carte blanche. À Marseille, il y avait eu pendant 3 semaines. Il y avait 2 containers qui avaient été mis à disposition pour des cartes blanches, quoi, d'artistes. Et la contrainte était que ceux qui intervenaient devaient laisser la trace de ce qui avait eu lieu avant. Et ce qui avait eu lieu avant, c'est qu'il y avait une install vidéo avec un petit moniteur qui était au fond du container. Et le projet avait été assez simple. J'avais acheté autant de cartons qu'il faut pour remplir le container, et c'était juste de creuser un tunnel au travers du... comme un trou de souris pour arriver jusqu'au fond de la... Donc ça m'a quand même demandé 3-4 heures avec juste une lame de cutter à percer tout ça. Et alors c'était assez marrant parce que moi c'était un jeu formel, mais donc c'était sur une place avec pas mal d'habitations autour, et un type qui est venu qui me dit on voit ça souvent sur le port de Marseille, les containers ouverts là, mais toi t'as pas eu de chance, hein, y a rien dans les cartons. C'était vraiment marrant. Du coup ça leur parlait pas mal, quoi. C'est pas du tout sonore, hein, c'est juste des jeux de forme un peu comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer en dernier? Il y a ça qui devrait être présenté bientôt. Bon, je crois que ça parle tout seul. En fait, j'ai foutu des capteurs dans les haut-parleurs et ils balancent le son directement depuis la frappe. C'est-à-dire quand on frappe sur un des haut-parleurs, il envoie le son directement. C'était de refaire une batterie, une espèce de batterie électronique. Faire un vrai instrument à partir de uniquement des haut-parleurs, en fait. Donc là, c'était la phase de développement, il y avait tout était un peu déporté. Aujourd'hui, tout est complètement intégré, et il n'y a plus un câble qui sort, c'est juste une prise, et puis ça marche tout seul. qui est à la fois entre un jeu de forme et il y a quand même l'idée de faire un vrai instrument quoi derrière ça. Ce que c'est devenu d'ailleurs. Ça c'est eu lieu pendant une résidence à Maribor. Où on avait aussi produit cette pièce-là avec Pierre-Étienne Morel, avec qui on avait fait la catapulte, et Louise Rubini, qui est une de ses deux anciens étudiants de Bourges aussi. On a souvent continué à bosser ensemble. Je vais quand même vous la mettre en mieux. C'était assez chouette, c'était une pièce qui était hyper spontanée. C'est que Louise, elle travaille essentiellement dans l'édition, enfin elle est sérigraphe de métier maintenant. Et Pierre-Étienne, il travaille que avec des bandes élastiques comme ça, des systèmes de déclenchement. Moi j'ai simplement proposé de plaquer cette guitare pour avoir l'effet sonore au moment du déclenchement. Tout est resté tel quel pendant une semaine ensuite, et ce qui était assez beau, c'est que elle avait utilisé du pigment de ferrite pour avoir ces traces noires, et elles ont commencé à rougir ensuite par la suite parce qu'elles se sont avec la rouille quoi, elles se sont oxydées, et la guitare était restée branchée avec le buzz conséquent. Et puis je pense qu'on approche du but. Je vais juste vous montrer, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà vu, mais on va finir un peu plus de manière un peu bucolique. Le disque qui est joué, c'est un de mes disques préférés de l'époque. C'est un disque de Vernon and Burns. C'est le titre qui vient de là, c'est le tune de Old Code Died Off. Donc c'est le morceau qui a tué la vieille vache. Et c'est un morceau que eux avaient. Ils l'ont pas inventé ce titre, c'est une vieille chanson anglaise en fait, qui était censée. C'est une expression en fait pour dire que c'est pas en promettant des choses que ça ira mieux. Et c'est l'expression, elle vient d'un fermier qui chante à ses vaches. Donc c'est en plein hiver, elles ont plus rien à manger. Et puis il chante à ses vaches, mais vous verrez, le printemps arrivera et le foin sera bon et vous allez vous rassasier, etc. Et la vache, elle meurt parce que c'est pas en lui chantant ça qu'elle est en train de se nourrir. Et donc voilà, c'était aussi à la fois c'est une référence à Vernon and Burns, un petit hommage, et puis une vraie mise en condition pour voir ce qu'elle allait se produire. Et on était assez surpris. Personne n'est mort. Donc c'est vraiment son trucage, c'est la prise de son brute et la fin est assez étonnante aussi. Et voilà. On les a pas drogués ni rien. Elles réagissent comme ça, naturellement. Voilà, en gros. Vous pourrez, j'ai pas tout montré, mais vous pourrez continuer à fouiller d'autres choses. Je sais pas. Après, ça c'est tout ce qui est mon travail personnel. Après, il y a aussi des choses en collaboration. Je bosse avec des chorégraphes, des metteurs en scène. Je fais pas mal de bandes son pour des films. Et c'est tout ça qui permet de trouver une manière de survie, financière. Et donc il faut amasser pas mal de travail pour arriver à en vivre quand même. Mais c'est possible. Mais c'est ouais beaucoup de il y a j'ai aucun document sur les très peu de documents sur les travaux en collaboration avec les chorégraphes, mais il y a des choses intéressantes aussi qui sont le cinéma, ça paye bien si vous avez l'occasion de faire des bandes son pour des films, c'est toujours bien, encore mieux quand ils sont bons, les films.
Tu parlais de
Non
Radio tout à
l'heure. Et alors, ouais, donc on a un collectif aussi qui s'appelle P-Node, c'est P-Node, où en fait on c'est un peu sur les bases de, je sais pas si tu vois Kogawa, un japonais qui fait de la micro radio, qui a développé tout un concept de micro radio pour se réapproprier l'usage des ondes et arriver sur du de pouvoir émettre sur des petits territoires. Donc ça va de quelques mètres à quelques centaines de mètres. Et donc avec le collectif, on a développé tout un outil qui fonctionne sur une Pi Raspberry, qui est le petit ordinateur autonome. Et donc qui permet... La Pi Raspberry, elle peut émettre d'elle-même. Et elle a l'avantage de pouvoir être connectée sur Internet. Donc elle peut recevoir un stream depuis ailleurs. Et puis émettre localement en FM, par exemple. Ou alors l'inverse, elle peut aussi être branchée avec un micro et puis renvoyer le stream vers Internet et donc accessible depuis partout. Donc on essaie de développer un outil qui est très modulable comme ça, qui permet de faire des allers-retours, qui permettrait de faire, tu pourrais imaginer à l'échelle de l'école, avoir une émission dans chaque pièce qui fonctionne de manière autonome ou alors qui est contrôlable depuis l'extérieur via un ordi ou via Internet. Et on fait à partir de ça beaucoup d'expériences sur les antennes, les types d'émissions. On ne reste pas du tout focalisé sur l'FM parce que la radio, c'est avant tout. Ça va de 10 kHz avec les communications maritimes généralement, pour tout ce qui est basse fréquence, jusqu'aux gigahertz que tu retrouves en communication satellite. Avec des techniques de hacking, tu peux très bien choper des images très facilement avec un petit émetteur, un petit récepteur, je ne l'ai pas emmené avec moi, c'est une petite antenne qui se branche en USB. Il y a pas mal d'images satellites qui sont transmises non cryptées. Donc quand tu récupères les données et que tu l'ouvres en JPEG ou quoi, normalement tu as l'image qui peut apparaître. Et tu récupères des vues satellites météo ou... De satellites civils comme ça. Quand on parle d'ondes radio, tu as aussi tout ce qui est contrôle de ouverture de voiture par exemple, ça se fait en ondes radio, le clic. Donc tu peux t'amuser à perturber aussi ces systèmes là. Tu as le wifi s'intégrer dedans, enfin voilà, on regarde vraiment la radio de la manière la plus large possible en fait, et pas uniquement la FM et qui est une toute petite bande dans l'utilisation de la radio. Le site il répertorie, mais c'est un peu obscur pour le moment, mais il y a tout est en libre accès aussi, les découvertes qu'on fait, les différentes techniques, tout ça. C'est un p-node.org. Et avec pas mal d'expériences de radio avant, on avait démarré une radio pirate ici qui s'appelait Radio 108. On avait un émetteur, on émettait depuis proche de la cathédrale, ouais, 2-3 fois par semaine à peu près. On avait eu l'événement sur Bandimage où on avait émis pendant 4 jours. On avait réussi à donner le contenu pendant 4 jours d'émission en continu. Puis après les trucs de Radio Floorbot, c'était avant, mais donc des collaborations avec des radios, des émissions de radio. On a fait une émission qui s'appelait le Tétraèdre pendant 2 ans. Il doit y avoir une vingtaine d'heures en écoute sur Internet. Où là, c'est vraiment inviter des gens à participer à ce médium radio, un format complètement libre parce qu'on était la dernière émission du soir, donc ça pouvait être une pièce de 5 minutes comme une pièce de 6 heures si la personne voulait investir ce temps-là. Voilà.